Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet espace suspendu où le temps semble ralentir, où chaque mot prend son envol et chaque silence devient musique. Ici, au Collège Notre-Dame, nous ouvrons une parenthèse particulière, celle où la poésie prend voix, où elle se fait souffle, murmure ou éclat, capable de traverser les âges et de relier les êtres. Bonjour Sophie.
Salut Greg. Eh oui, aujourd'hui nous vous invitons à un voyage au cœur des mots, un voyage où les poèmes se lisent à haute voix, où les phrases vibrent et se déposent dans l'air comme les caresses ou des frissons. Ici, la poésie n'est plus silencieuse sur le papier, elle respire, elle parle, elle nous touche.
Et oui, en effet, au fil de cette heure d'émission, les voix de nos jeunes élèves et nos participants adultes se mélangent, se répondent et créent une harmonie fragile.
Alors installez-vous confortablement, laissez vos oreilles s'ouvrir, laissez votre cœur se déposer sur les vibrations de la voix et laissez la poésie vous guider. Ici, chaque souffle, chaque silence et chaque mot compte. Bienvenue dans « Quand la poésie prend voix à la radio », un moment de rencontre entre générations, un voyage sensible dans l'univers des mots.
Alors, prêt à écouter autrement, à entendre ce que les mots ont à nous murmurer, à nous confier, à nous offrir. Comment ça va, Sophie ?
Eh bien, ça va très bien. Et toi ? Pour rappel, on avait fait cette émission l'an dernier déjà avec la poésie et des jeunes collégiens.
C'est la deuxième édition.
C'est la deuxième édition.
L'an dernier, on avait tenu une demi-heure, 12 élèves. Et cette année, notre défi, c'est de doubler le chiffre et de doubler les élèves.
Alors, il y aura plus de 20 collégiens qui seront présents pour déclamer leur poésie.
C'est ça. Et des adultes.
Et des adultes. Et on ouvre la valse.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Renaud. Bonjour, Sophie.
Salut Greg, ça va depuis l'année dernière pour la poésie ? On s'est vu autrement, heureusement.
Oui, plusieurs autres émissions.
Et c'est la deuxième édition du Collège Notre-Dame qui prend la plume, qui va nous déclamer des beaux mots, des beaux textes.
Ça, de la poésie, plus de 30 élèves et des personnels qui seront présents aujourd'hui pour faire de divers poèmes.
Alors on précise, c'est le Collège Notre-Dame, ils sont en classe entre la 6e et la 3e, donc ils ont entre 11 et 14 ans et ils sont pour la plupart déjà amoureux des beaux mots.
Des beaux mots et également de la radio, du micro. Ils sont passionnés par ce média qui disparaît de plus en plus, mais grâce aux jeunes Français qui écoutent et qui créent la radio, c'est comme ça que la radio va survivre et vivre.
C'est la génération qui va prendre le relais de la radio, bien sûr.
Nous allons les écouter dans quelques instants, mais on peut les écouter également sur Radio Mono la semaine avec leur podcast.
Bien sûr, alors toute la semaine, on diffuse les podcasts et allez sur le site de Radio Mono, tous les podcasts sont mis en ligne. Cette émission sera aussi mise en ligne sur le site de la radio.
Merci beaucoup Sophie. Et c'est parti, on lance la valse.
Merci. Allez, le premier à se lancer, c'est un garçon. Bonjour.
Bonjour.
Comment tu t'appelles ?
Maxime.
Ok, Maxime.
Maxime, tu es élève en quelle classe ?
En 6e 7.
6e 7, donc c'est le plus petit hein, pour l'instant.
Oui.
Forcément, c'est le premier.
Eh oui.
On t'écoute. Tu as choisi un poème de qui, Maxime ?
Il n'a pas d'auteur. C'est un soldat de la guerre qui l'a écrit.
D'accord, on
d'accord.
T'écoute.
Pourquoi ce poème ?
J'ai choisi cette poésie parce qu'elle parle de la guerre à travers l'histoire d'un jeune soldat. On comprend qu'il a peur, qu'il souffre et qu'il est très jeune. Cela m'a touché, même si cette guerre s'est passée il y a très longtemps, il y a encore des conflits dans le monde aujourd'hui. Nous, les enfants, nous connaissons la guerre, surtout à travers nos jeux vidéo, mais dans la réalité, c'est très dur et très triste. Cette poésie nous rappelle la chance que nous avons de vivre dans un pays en paix et qu'il faut respecter la mémoire des soldats qui ont souffert.
Bravo, bravo.
Je crois que c'est un poème qui est d'actualité, malheureusement.
On t'écoute.
Le jeune soldat. Sa main tremble, il a froid, sous la pluie, dans la boue. Dans ses yeux, c'est l'effroi. L'attente le rend fou. Une lettre, il écrit. Dans les tranchées, la nuit. Soudain, un tir d'obus. Les mots se seront tus. La lettre en confetti n'atteindra pas l'ami. Trop jeune, il est parti, comme tous ses soldats, sacrifiés au combat, cible pour l'ennemi. 4 années de misère, puis les clairons sonnèrent, les cloches résonnèrent, l'armistice ils signèrent. Bleuets, coquelicots, revers des manteaux, minutes de silence, puis c'est l'effervescence. La paix est à gagner, un monde à restaurer, relevé de ses ruines, un pays sous la brume. Clémenceau le disait, plus dur que la guerre, la paix est à gagner, l'armistice naguère.
Eh bien, bravo. Et puis, merci pour ce poème qui est très touchant, malgré qu'il n'est pas d'auteur. Il est très touchant et malheureusement très actuel encore.
Merci, Maxime.
Bonjour, ton prénom ?
Maïcha.
Maïcha. Bonjour, Maïcha. Alors, tu nous as préparé quoi ?
Un poème de Victor Hugo. Et son nom, c'est Les Djinns.
D'accord. Victor Hugo, l'éternel. Victor Hugo.
Et pourquoi tu as choisi ce poème et cet auteur ?
Parce que Victor Hugo, je le connaissais depuis déjà plus longtemps et qu'il est connu. Et j'ai choisi ce poème parce que les djinns, ça m'a inspiré, car je connais un peu ses histoires. J'avais fait des exposés un peu dessus, et donc ça m'a inspiré, je l'ai choisi.
Alors surtout que c'est un poème qui n'est pas très connu de Victor Hugo, hein. C'est pas celui qu'on a l'habitude d'entendre le plus souvent. Donc curieuse de t'écouter, tu peux y aller.
Mur, ville et port, asile de mort, mer grise où brise la brise, tout dort. Dans la plaine naît un bruit, c'est la laine de la nuit. Elle brame comme une âme qu'une flamme toujours suit. La voix plus haute semble un grelot d'un nain qui saute, c'est le galop. Il fuit, s'élance, puis en cadence sur un pied danse au bout d'un flot. La rumeur approche, l'écho la redit, c'est comme la cloche d'un couvent maudit, comme un bruit de foule qui tonne et qui roule, et tantôt s'écroule, et tantôt grandit. Dieu, la voix sépulcrale des djinns, quels bruits ils font, fuyons sous la spirale de l'escalier profond. Déjà s'éteint ma lampe, et l'ombre de la rampe, qui le long du mur rampe, monte jusqu'au plafond. C'est l'essaim des djinns qui passe et tourbillonne en sifflant les ifs que leur vol fracasse. Craque comme un pain brûlant, leur troupeau lourd et rapide volant dans l'espace vide semble un nuage livide qui porte un éclair au flanc.
Voilà. Bravo, bravo. Alors moi, je veux vraiment te féliciter pour ton élocution. Elle est parfaite. Merci.
Sophie, et si nous continuons ces magnifiques poèmes ? Et cette fois-ci, je te propose un duo.
Un duo, mais pas nous. Hein.
Ah, pas nous, non.
D'accord. Mais par contre, relever le défi après la jeune fille qui est passée juste avant va être dur pour vous, les filles.
Vous appelez comment les filles ?
Diana, Iris.
Vous êtes en quelle classe ?
6e 6.
Et vous allez nous faire un poème de qui ?
De l'Odyssée d'Homère.
D'accord, je comprends mieux le duo du coup.
Et pourquoi ce poème ?
On l'a travaillé en classe et du coup on s'est dit que ce serait bien.
D'accord, vous avez fait la traversée, les voyages.
Eh bien, traversons ensemble.
On vous écoute.
Ulysse et les sirènes. Oh, amis, il ne faut pas qu'un seul, et même deux seulement d'entre nous. Sache ce que m'a prédit la noble déesse Circé, mais il faut que nous le sachions tous, et je vous le dirai, nous mourrons après. Ou, évitant le danger, nous échapperons à la mort et à la guerre. Avant tout, elle nous ordonne de fuir le champ et la prairie des divines sirènes, et à moi seule, elle permet de les écouter. Mais liez-moi fortement avec des cordes, debout contre le mât, afin que j'y reste immobile. Et, si je vous supplie de et vous ordonne de me délier, alors au contraire, chargez-moi de plus de liens. Et je disais cela à mes compagnons. Et pendant ce temps, la nef bien construite approcha rapidement de l'île des sirènes, tant le vent favorable nous poussait. Mais il s'apaisa aussitôt, et il fit silence, et un esprit assoupit les flots. Alors, mes compagnons, se levant, plièrent les voiles et les déposèrent dans la nef creuse. Et, s'étant assis, ils blanchirent l'eau avec leurs avirons polis. Et je coupai, à l'aide de l'airain tranchant, une grande masse ronde de cire, dont je pressai les morceaux dans mes fortes mains. Et la cire s'amollit, car la chaleur du roi Ilios était brûlante. Et j'employais une grande force. Et je fermais les oreilles de tous mes compagnons. Et, dans la nef, ils me lièrent avec des cordes par les pieds et les mains, debout contre le mât. Puis, s'asseyant, ils frappèrent de leur aviron la mer écumeuse. Et nous approchâmes à la portée de la voix. Et la nef, rapide, étant proche, fut promptement aperçue par les sirènes. Elles chantèrent leur sang harmonieux. Viens, ô illustre Ulysse, grande gloire des Achéens, arrête ta nef afin d'écouter notre voix. Aucun homme n'a dépassé notre île sur sa nef noire sans écouter notre douce voix. Puis il s'éloigne plein de joie et sachant de nombreuses choses. Nous savons en effet tout ce que les Achéens et les Troyens ont subi devant la grande guerre.
par la volonté des dieux, et nous savons aussi tout ce qui arrive sur la terre nourricière.
Merci beaucoup, avec vos voix de sirène, ça va très très bien. Merci les filles.
Très joli, hein. Il ne faut pas oublier qu'ils rentrent de vacances aujourd'hui, donc ils n'ont pas pu s'entraîner. Hein.
Qui ça, Ulysse ?
Tous les Ulysse et les élèves d'ailleurs. Elle est comique notre petite Sophie aujourd'hui.
On fera un duo tous les deux.
On fera un duo.
On chantera.
Pour finir l'émission.
Merci beaucoup les filles. Bonjour mademoiselle.
Bonjour.
C'est quoi ton prénom ?
Léonie.
Léonie, c'est joli.
Et tu vas nous faire un poème de qui ?
De Maurice Carême.
Ah, j'adore.
Et c'est quoi le titre ?
L'école.
L'école, oh.
Oh non.
Encore l'école. On t'écoute ?
L'école était au bord du monde, l'école était au bord du temps. Au-dedans, c'était plein de rondes, au-dehors, plein de pigeons blancs. On y racontait des histoires si merveilleuses qu'aujourd'hui, dès que je commence à y croire, je ne sais plus bien où j'en suis. Des fleurs y grimpaient aux fenêtres, comme on n'en trouve nulle part. Et dans la cour gonflée de hêtres, il pleuvait de l'or en miroir. Sur les tableaux d'un noir profond, voguaient de grandes majuscules, où de l'aube du soir, nous glissons vers de nouvelles péninsules. L'école était au bord du monde, l'école était au bord du temps. Ah, que ne suis-je encore dedans, pour pouvoir au dehors les colombes.
Bravo.
Merci.
Pourquoi ce poème ? Oh, bonne question.
Toi aussi.
Oh, Greg. Merci. Pourquoi ce poème ?
Parce que ça parlait de l'école et que je le trouvais joli.
D'accord. Bon, bien l'école.
Sophie, on continue avec une jeune fille. T'as quel âge ?
12 ans.
Cinquième alors ?
Oui.
Et tu t'appelles comment ?
Elina.
Elina, et qu'est-ce que tu vas nous produire aujourd'hui ?
Un poème.
De qui ?
De Stéphane Moisan.
D'accord.
Stéphane Moisan, tu connais un petit peu la date de ce poète ?
Non, je ne connais pas la date.
D'accord.
Bah, Sophie, tu
cherches quoi ? Pourquoi ce poème ?
Parce que ce poème, ça parle de Dieu.
D'accord. Et donc, tu l'as choisi en fonction du titre ?
Oui.
Ok.
Et j'ai trouvé que c'était un beau texte, enfin, un beau poème.
Bon, t'écoutes ?
Oui. Dans la langue de Dieu, la paix et le combat du pouvoir de l'amour. Sur l'amour du pouvoir. Dans le silence des hommes, une vérité est cachée. Les soldats de la paix, mieux vaut ne pas s'y fier.
Très beau. Merci beaucoup.
Super, c'est bien de rappeler des messages de paix comme ça.
C'est très beau. Après, on a eu un message sur la guerre. Ouais. Maintenant, c'est un message de paix. Bravo les filles. Et nous allons continuer l'émission, mais cette fois-ci avec notre première adulte, Sophie. Avec notre première adulte, c'est Madame Japiot, dans quelques secondes. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, ça va, merci.
Professeur alors ?
Non, infirmière scolaire.
D'accord. Ouais. Oh, on avait l'habitude de Carole, Laetitia, Carole. Et
maintenant, c'est Émilie.
D'accord. C'est vous la voix des podcasts avec les collégiens sur les addictions notamment ?
Voilà, c'est ça. Bon, pour l'instant, on n'en a fait qu'un. Mais il y en a d'autres qui vont suivre. A priori, on va prendre un petit rythme d'un podcast par mois, il me semble. Et voilà, ouais.
Et quel est le prochain podcast sur la santé ?
Ça sera sur la cigarette électronique et les puffs, les dangers.
L'accoutumance, ces addictions. Ouais.
Et comment vous faites pour choisir les thèmes des podcasts ?
Alors déjà, moi, j'ai 4 enfants. Du coup, je leur demande conseil à eux. Et puis, je vois aussi ce qui est important, ce qu'on fait avec les enfants du collège, ce qui revient régulièrement. Et puis, les thèmes qui sont un petit peu, entre guillemets, à la mode par rapport à la santé actuellement. Donc, je me base là-dessus.
Merci, on t'écoute, tu nous
proposes. Et quel est le nom du poème ? Pic.
Non, c'est La Guenon, le singe et la noix. C'est un poème de 1792 qui a été écrit par Jean-Pierre Clarisse de Florian. Il était un proche parent de Voltaire.
D'accord.
Voilà. Et c'est un poème que j'ai choisi parce que quand j'étais plus jeune, c'est un poème que j'avais repris et que j'avais écrit à mon papa. Mm-hmm. Parce qu'une fois que vous l'aurez entendu, vous allez comprendre un petit peu.
Il est symbolique.
Voilà, c'est ça. Exactement. Et quand j'étais ado, moi, j'étais plutôt une ado un petit peu feignante, il faut le dire. Je n'aimais pas trop bosser. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce poème-là.
On vous écoute. C'est une découverte pour moi, ce poème.
Voilà. Donc, ça s'appelle « La Guenon, le singe et la noix ». Une jeune guenon cueillit une noix dans sa coque verte. Elle y porte la dent, fait la grimace. « Ah certes, dit-elle, ma mère mentit quand elle m'assura que les noix étaient bonnes. Puis croyez au discours de ces vieilles personnes qui trompent la jeunesse. Au diable soit le fruit !» Elle jette la noix, un singe la ramasse. Vite, entre deux cailloux, la casse, l'épluche, la mange et lui dit « Votre mère eut raison, mamie. Les noix ont fort bon goût, mais il faut les ouvrir. Souvenez-vous que dans la vie, sans un peu de travail, on n'a point de plaisir. »
Voilà. Le message est passé, en
le
tout cas.
Le message est passé, j'espère, auprès de nos élèves aussi.
Merci beaucoup.
C'est moi.
Que c'est pas mal, c'est comme message à faire passer. Un petite
très
morale. Beau
message. Ouais. Merci.
Merci à vous.
Vous êtes professeur aussi
Oui. Professeur de français, 6e, 5e.
Voilà. Mais vous êtes pile poil dans le bon créneau poésie.
Bah oui.
Quelle est la poésie?
Alors, bon, je peux vous la lire et puis après, on en parle si vous voulez.
Eh bien oui, allons-y. Bon,
c'est ce que vous, peut-être, vous pourrez comprendre.
Mm-hmm.
On y va. Alors, Seigneur, aie pitié de nos âmes. Nous sommes couverts de cendres et de suie. Nous ne voulons plus tuer. Nous ne voulons plus nous battre. Que sommes-nous devenus, nous qui étions hommes et qui ne sommes plus rien? Où irons-nous désormais? Nous ne serons plus jamais les mêmes. Nous ne serons plus jamais des hommes, car les hommes, les vrais, n'ont jamais haï, ils n'ont fait que rechercher et comprendre. Seigneur, qu'ont donc fait de nous nos ennemis en nous forçant à la bataille? Ils nous ont transformés. Ils ont obscurci nos cœurs et brûlé nos âmes, terni nos yeux et souillé nos larmes. Ils nous ont changés. Ils nous ont inoculé leur haine. Ils ont fait de nous ce que nous sommes devenus. Désormais, nous sommes capables de tuer, nous l'avons déjà fait. Désormais, nous sommes prêts à tout pour notre cause. Retrouverons-nous le sommeil des justes? Retrouverons-nous la force? Pourrons-nous aimer de nouveau? Seigneur, la haine de l'autre se guérit-elle un jour ou nous a-t-elle contaminés à jamais? Peste des pestes, maladie des maladies. Seigneur, aie pitié de nos âmes, nous ne voulons plus tuer. Nous ne voulons plus nous battre. Nous ne voulons plus être aveuglés par la haine. Mais comment résister à la tentation? Guérissons-nous un jour de ce que nous avons vécu? Guérirons-nous un jour de ce que nous sommes devenus? Seigneur, aie pitié de nos âmes. Nous ne savons plus qui nous sommes.
On a traversé tous les siècles avec cette poésie.
Alors oui, bon, c'est un texte un peu difficile à lire justement, mm-hmm. C'est pour ça que je l'ai choisi. Donc pour vous, vous voyez un peu de quoi il s'agit?
Ouais, je pense que c'est par rapport à toutes les guerres qui ne sont pas non seulement des guerres avec des soldats, mais aussi des guerres intérieures, des guerres,
exactement, oui.
Des guerres sur aussi le racisme peut-être, exactement. J'entends ça aussi.
Et les guerres intérieures, c'est exactement ça. Mm-hmm. Donc ce texte, il m'a plu, donc c'est pas vraiment une poésie, enfin, c'est une poésie en prose qui est à l'intérieur du roman de Joël Dicker, Les morts de nos pères. Et en fait, ça raconte les Français qui sont partis en Angleterre quand sont arrivés les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils ont été formés par les Anglais. Les plus résistants ont été gardés et intégrés les services secrets anglais pour ensuite venir en France se battre en civil. Donc, ce sont eux qui ont organisé les groupes de résistance, qui ramenaient des armes. Et donc, ce texte, il m'a touché parce que... Donc le protagoniste sait qu'il y a des traîtres parmi les résistants.
Mmh.
Donc il y a un ami, un espion anglais comme lui qui a été dénoncé. Et donc il recherche le coupable parce qu'ils veulent se venger et ils veulent savoir qui donne des informations aux Allemands. Donc il trouve cette personne-là, il la torture, il brûle sa maison et peu de temps après, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés.
D'où les tortures et la souffrance
d'où cette
intérieure.
Supplication, de se demander qu'a fait la guerre de nous, que sont-ils devenus, même s'ils se battent pour la bonne cause. Mm-hmm. En fait, ils sont devenus des monstres. Et, donc ce texte m'a vraiment touché. Ouais.
Un message fort et puissant.
Ouais.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci.
Merci.
Nous allons continuer l'émission avec Catherine Moine, qui va nous faire un magnifique poème. Guten Tag, Frau Moine.
Guten Tag.
Aujourd'hui, sur Radio Mono, Sophie, nous avons l'international. Aujourd'hui, tu vas nous faire un poème en allemand. Oui. Et après, tu nous expliqueras un petit peu pourquoi ce poème et tu vas nous le traduire vite fait
d'accord.
en français.
D'accord. Donc, vous êtes professeur d'allemand, donc par déduction.
Et elle est allemande.
Et en plus.
Et voilà.
D'accord. Et donc, l'accent, l'accent sera nickel.
Voilà. Alors, j'ai choisi de Erich Kästner. Ich bin die Zeit. Ich bin die Zeit. Mein Reich ist klein und unbeschreibbar weit. Ich bin die Zeit. Ich bin die Zeit, die schleicht und eilt, die Wunden schlägt und Wunden heilt. Hab weder Herz noch Augenlicht. Ich trenn die Gut und Böse nicht. Ich hasse keinen, keiner tut mir leid. Ich bin die Zeit. Da ist nur eins, das sei euch anvertraut. Ihr seid zu laut. Ich höre die Sekunden nicht. Ich höre den Schritt der Stunden nicht. Ich höre euch beten, fluchen, schreien. Ich höre Schüsse zwischendrein. Ich höre nur euch allein. Gebt Acht, ihr Menschen. Was ich sagen will, ihr seid ein Stäubchen, seid endlich still. Im Gewand der Zeit, lasst euren Streit. Klein wie ein Punkt ist der Planet, der sich samt euch im Weltall dreht. Die oben pflegen nicht zu schreien. Und wollt ihr schon nicht weise sein, ihr könnt zumindest leise sein. Schweigt vor dem Ticken der Unendlichkeit. Hört auf die Zeit.
Là. Greg va nous traduire maintenant, puisqu'il a fait de l'allemand.
Quel est le sens de ce
Le sens. Alors, pour moi, c'est un sens qui est tellement aussi présent aujourd'hui. Le titre, déjà, toute seule, c'est « Je suis le temps ». Le temps qui avance, si on veut ou pas, si on est bien ou pas. Et le temps qui nous dit aussi... arrêtez un petit peu de vous battre, de vous faire les choses n'importe comment. Vous êtes toujours trop bruyant, vous faites trop de bruit, mais vous écoutez jamais, vous n'êtes jamais là pour écouter le temps qui avance et qui nous dit aussi, on est juste un tout petit planète qui tourne dans l'univers, qui est très loin et qui s'embrouille. Et nous, sur notre terre, on fait beaucoup de bruit, on se bat, on fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Alors, écoutons-nous juste le temps et laissez-nous le temps, voilà.
Merci beaucoup.
Et juste le nom du poète, c'est ?
Erich Kästner.
D'accord.
C'était alors un écrivain aussi qui a écrit beaucoup de choses bien connues pour les enfants.
D'accord.
Ouais.
Merci beaucoup.
Mais qui était aussi dans la critique, qui la voulait critique faire aussi les choses... Avec son
temps.
Voilà.
Merci beaucoup, Catherine.
Okay.
Nous allons continuer. On va passer à l'anglais, mais elle va parler français. Madame Aubrier, enseignante d'anglais.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Vous avez choisi quel auteur ?
Alors, j'ai choisi Destination Arbre par André Chédide.
D'accord. D'accord, c'est de la poésie pure, là.
Voilà, exactement.
On t'écoute.
Parcourir l'arbre, se lier au jardin. Se mêler aux forêts, plonger au fond des terres pour renaître de l'argile. Peu à peu, s'affranchir des sols et des racines, gravir lentement le fût, envahir la charpente, se greffer aux branchages. Puis, dans un éclat de feuilles, embrasser l'espace, résister aux orages, déchiffrer les soleils, affronter jour et nuit. Évoquer ensuite, au cœur d'une métropole, un arbre, un seul, enclos dans l'asphalte, éloigné des jardins, orphelin des forêts. Un arbre, au tronc rêche, aux branches taries, aux feuilles longuement éteintes. S'unir à cette soif, rejoindre cette retraite, écouter ses appels. Sentir sous l'écorce, captive mais invincible, la montée des sèves, la pression des bourgeons, semblable aux rêves tenaces qui fortifient vos vies. Cheminer d'arbre en arbre, explorant l'éphémère. aller d'arbre en arbre, dépistant la durée. Donc j'ai choisi ce poème parce que l'arbre symbolise la croissance,
la vie,
l'avenir et la vie. Et comme chacun d'entre nous, il prend le temps de grandir, de s'enraciner et de s'élever. C'est un poème simple, porteur d'espoir et de confiance en la vie.
Il est très beau en tout cas. Merci.
Très très beau choix. Merci à toi Pascal.
Merci.
Nous allons continuer avec une enseignante avant de retrouver des élèves avec Madame Véronique Julia Noirvache. Bonjour Véronique, ça va ?
Bah, ça va très bien et toi Greg ?
Une habituée des radios,
oui.
Ça va ?
Ça va, ça va.
T'as reconnu Véronique ?
Oui.
C'est le moment de qui ?
Bah, de Noé.
Ah voilà, Noé.
Il est connu.
Tu peux l'entendre sur Radio Manou.
Je suis la maman d'eux.
La maman
voilà, réduite à être la maman d'eux.
Et ben, nous allons t'écouter. Quel poème as-tu choisi ?
Alors, j'ai choisi un poème assez célèbre de Baudelaire, qui est l'Albatros, et qui est paru dans Les Fleurs du Mal en 1861. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique ailé. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Très beau.
Très beau.
Baudelaire, d'ailleurs, c'est mon préféré.
Oui, j'allais dire. Et pourquoi ce poème ?
Parce que c'est un poème qui nous parle, au travers d'un albatros, d'êtres exceptionnels, comme peuvent l'être évidemment les poètes, d'êtres exceptionnels qui sont souvent, parfois, incompris et par conséquent tournés en ridicule en raison de leur décalage avec un monde qui est incapable de reconnaître leur beauté et leur grandeur.
Tournés en ridicule et parfois jusqu'à la persécution.
Merci Véronique.
Merci.
Merci à vous.
Voilà. On commence par Anne. Anne Philippot, t'aimes bien les maths ?
Je no comment.
Comment ça va ?
Bonjour, oui, ça va très bien.
Merci d'avoir accepté.
Professeur de mathématiques. Alors, on dit toujours mathématiques ou on dit les sciences
Mathématiques.
Mathématiques, tout simplement.
Voilà.
Donc, un petit poème mathématique, non ?
Non.
Non,
non, non. Un poème sur la jeunesse d'André Chédid.
D'accord, c'est la deuxième fois qu'on a le André Chédid en tant qu'auteur.
Jeunesse qui s'élance dans le fatras des mondes, ne te défais pas à chaque ombre, ne te courbe pas sous chaque fardeau. Que tes larmes irriguent plutôt qu'elles ne te rongent. Garde-toi des mots qui se dégradent, garde-toi du feu qui pâlit. Ne te laisse pas découdre tes songes, ni réduire ton regard. Jeunesse, entends-moi, tu ne rêves pas sans fin.
Magnifique.
Pourquoi ce poème ?
Alors, il était important pour moi de choisir un poème qui célèbre la jeunesse. C'est un message d'espoir qui invite les jeunes à croire en eux, en leurs forces, en leurs rêves, ce qui me parle en tant que maman et en tant qu'enseignante. De plus, il est écrit par une femme, André Chédid, maman de Louis et grand-mère de M, dont les voix ont toutes les deux bercé mon enfance et celle de mes enfants dans les contes Émilie Joly et Le Soldat Rose. C'est donc un choix de maman que j'ai fait là.
Très, très beau poème.
C'est vrai qu'il parle à tout le monde. Hein. Ce poème, il est assez contemporain et je pense qu'il s'adresse vraiment aux jeunes.
Un très, très bon choix.
À demain.
Merci. Alexia, merci. On va continuer. Tu es à quel âge ?
13 ans, presque 14.
Donc tu es en quatrième ?
Oui.
Et tu vas nous faire quel poème ?
Ça s'appelle Une histoire d'amitié.
D'accord, on t'écoute.
C'est de qui ?
C'est de Dean.
Dean.
D'accord.
Ah, c'est Dean, voyons.
Oui, d'accord. Oui. Oui.
C'est parti, on t'écoute.
Un jour, un matin, il a fallu un petit rien, mais qui m'a fait tellement de bien. Une magnifique journée remplie de soleil, et depuis cet instant, rien n'a plus jamais été pareil. Une amitié remplie de bonheur, qui me va droit au cœur. T'avoir comme une amie m'a rendu espoir. Alors que mes yeux étaient embrouillés de noir, J'apprécie tous ces petits moments que je vais garder très précieusement, au plus profond de moi, pour me rappeler toujours de toi. Peu importe l'heure qu'il sera, peu importe le temps qu'il fera, si tu as besoin de moi, je serai là pour toi. J'aimerais pouvoir te consoler et t'aider à ne plus pleurer, mais sache qu'en ce moment, et surtout à chaque instant, c'est moi qui suis dans le chagrin, car je sens que tu me lâches la main. J'ai tant besoin de tes nouvelles. Je voudrais tant que tu m'appelles, parce que si tu n'es plus là pour m'écouter, j'aurai beaucoup de mal à me relever. Sache que tu es une amie irremplaçable, que ne plus te parler m'est inimaginable. Ensemble, nous aurions pu écrire un livre, car peu de personnes savent ce que nous aurons pu vivre. Ton amitié m'a redonné du courage. C'est grâce à elle que nous tournons chaque nouvelle.
Merci beaucoup. L'amitié, c'est important comme ça pour toi?
Oui.
C'est très important.
Oui.
C'était très beau, merci.
Allez Sophie, nous allons continuer l'émission avec une jeune fille. Tu as quel âge?
13 ans.
13 ans, donc tu es en quatrième également?
Oui.
Quelle classe?
Quatrième 2.
Quatrième 2. Demain, tu es également en direct à la radio, hein, sur RCF, et tu vas interviewer Grégoire.
Mmh. C'est qui? C'est le club radio, là?
C'est le club radio, oui.
D'accord, donc une jeune fille qui a l'habitude de faire de la radio.
On t'écoute.
Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres, et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux, maintenant que je suis sous les branches des arbres et que je puis songer à la beauté des cieux, maintenant que du deuil qui m'a fait l'âme obscure, je sors pâle et vainqueur, et que je sens la paix de la grande nature qui m'entre dans le cœur. Maintenant que je puis, assis au bord des ondes, ému par ce superbe et tranquille horizon, examiner en moi les vérités profondes et regarder les fleurs qui sont dans le gazon. Maintenant, ô mon Dieu, que j'ai ce calme sombre de pouvoir désormais voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l'ombre elle dort pour jamais. Maintenant qu'attendrie par ces divins spectacles, plaines, forêts, rochers, vallons, fleurs argentées, voyant ma petitesse et voyant vos miracles, je reprends ma raison. Devant l'immensité, je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire, je vous porte, apaisé, les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé. Je viens à vous, Seigneur, confessant que vous êtes bon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant. Je conviens que vous seul savez que vous faites et que l'homme n'est rien qu'un jonc qui tremble au vent. Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme ouvre le firmament et que ceux qui s'y battent, nous prenons pour le terme et le commencement. Je conviens à genoux que vous seul, Père Auguste, possédez l'infini, le réel, l'absolu. Je conviens qu'il est bon, je conviens qu'il est juste, que mon cœur est saigné, puisque Dieu l'a voulu. Je ne résiste plus à tout ce qui m'arrive, par votre volonté, l'âme de deuil en deuil, l'homme de rive en rive, roule à l'éternité. Nous ne voyons jamais qu'un seul côté des choses, l'autre plonge en la nuit d'un mystère effrayant, l'homme subit le joug sans connaître les causes, tout ce qu'il voit est court, inutile et fuyant. Vous faites revenir toujours la solitude autour de tous ses pas. Vous n'avez pas voulu qu'il eût la certitude, ni la joie d'ici-bas. Dès qu'il possède un bien, le sort le lui retire. Rien ne lui fut donné, dans ses rapides jours, pour qu'il s'en puisse faire une demeure et dire « C'est ici ma maison, mon champ et mes amours. » Il doit voir, peu de temps, tout ce que ses yeux voient. Il vieillit sans soutien, puisque ces choses sont ce qu'il faut qu'elles soient. J'en conviens, j'en conviens. Le monde est sombre, odieux, l'immuable harmonie se compose des pleurs aussi bien que des chants. L'homme n'est qu'un atome en cette ombre infinie. Nuit où montent les bons, où tombent les méchants. Je sais que vous avez bien autre chose à faire et que de nous plaindre tous. Et qu'un enfant qui meurt, désespoir de sa mère, ne vous fait rien à vous. Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue, que l'oiseau perd sa plume et la fleur son parfum, que la création est une grande roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un. Les mois, les jours, les flots des mers, les yeux qui pleurent, passent sous le ciel bleu. Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent. Je le sais, ô mon Dieu. Dans vos cieux, au-delà de la sphère des nues, au fond de cet azur immobile et dormant, peut-être faites-vous des choses inconnues où la douleur de l'homme entre comme élément. Peut-être est-il utile à vos desseins sans nombre que des êtres charmants s'en aillent emportés par le tourbillon sombre des noirs événements. Nos destins ténébreux vont sous des lois immenses que rien ne déconcerte et que rien n'attendrit. Vous ne pouvez avoir de subites clémences qui dérangent le monde. Ô Dieu, tranquille esprit, Je vous supplie, ô Dieu, de regarder mon âme et de considérer. Qu'humble comme un enfant et doux comme une femme, je viens vous adorer. Considérez encore que j'avais, dès l'aurore, travaillé, combattu, pensé, marché, lutté, expliquant la nature de l'homme qui l'ignore, éclairant toutes choses avec votre clarté, que j'avais, affrontant la haine et la colère, fait ma tâche ici-bas, que je ne pouvais pas m'attendre à ce salaire, que je ne pouvais pas prévoir que, vous aussi, sur ma tête qui ploie, vous appesantiriez votre bras triomphant, et que vous, qui voyez comme j'ai peu de joie, vous me reprendriez si vite, mon enfant, qu'une âme ainsi frappée à se plaindre est sujette que j'ai pu blasphémer, et vous jetez mes cris comme un enfant qui jette une pierre à la mer. Considérez qu'un doute, ô mon Dieu, quand on souffre, que l'œil qui pleure trop finit par s'aveugler, qu'un être que son deuil plonge au plus noir du gouffre quand il ne vous voit plus, ne peut vous contempler, et qu'il ne se peut pas que l'homme, lorsqu'il sombre dans les afflictions, ait présente à l'esprit la sérénité sombre des constellations. Aujourd'hui, moi qui fus faible comme une mère, je me courbe à vos pieds devant vos cieux ouverts. Je me sens éclairée dans ma douleur amère par un meilleur regard jeté sur l'univers. Seigneur, je reconnais que l'homme est en délire. S'il ose murmurer, je cesse d'accuser, je cesse de maudire. Mais laissez-moi pleurer. Hélas, laissez les pleurs couler de ma paupière, puisque vous avez fait les hommes pour cela. Laissez-moi me pencher sur cette froide pierre et dire à ma famille, sentez-vous que je suis là ? Laissez-moi lui parler, incliné sur ses restes, le soir quand tout se tait. Comme si dans sa nuit, ouvrant des yeux célestes, cet ange m'écoutait.
Elle avait prévenu. Hein. Elle a dit au début, c'est de qui ?
Victor Hugo a vu.
Pourquoi tu pleures ?
Parce que ça me fait penser à ma famille qui est morte.
D'accord, tu es touchée. C'est pour ça que tu as choisi cette poésie. Ça t'a touchée. D'accord. En tout cas, tu l'as interprétée avec courage, hein, jusqu'au bout. Et puis, tu as craqué aux dernières lignes.
Elle n'était pas finie, en fait.
Elle n'était pas finie. Bon, et tu n'y arriveras pas ? Tu n'y arriveras pas. En tout cas, c'était super. Merci beaucoup.